des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission consacrée à la digitalisation. Parce que malgré les défis auxquels le monde est confronté pour surmonter l'épidémie de Covid-19, il est évident qu'il a eu un impact sur la transformation numérique de l'industrie. Alors comment la pandémie a-t-elle agi comme un accélérateur, un catalyseur pour la digitalisation et notamment chez Eiffage, qui est, comme vous le savez, un des leaders européens du PTP et des concessions, 72 000 collaborateurs, 100 000 chantiers, voire plus, sur des métiers complémentaires, la construction, l'immobilier, l'aménagement, du génie civil, l'énergie système et des concessions, et j'en passe. Qui de mieux pour en parler que deux responsables du groupe Eiffage, François Castan, il est directeur de l'ingénierie et des systèmes d'information chez AP2R. François Castan, bonjour.
Bonjour.
Mais bienvenue sur le plateau. Avec nous également Sébastien Chemin, directeur de la transformation digitale chez Eiffage Énergie Système. Sébastien Chemin, bonjour.
Bonjour Fabien.
Tout va bien ?
Super.
Eh bien, cette digitalisation, c'est vrai que quand on l'entrechoque avec la pandémie, ça fait drôle. Mais tout porte à croire quand même qu'il y a eu une accélération. C'est pas juste un processus dont il s'agit. Comment vous voyez les choses ?
Alors, moi, je trouve que c'est intéressant déjà de s'interroger sur le mot transition ou transformation digitale, parce que quand on parle de transformation, on a l'idée d'un début et d'une fin, d'un point de départ et d'un point d'arrivée. Et aujourd'hui, force est de constater que on sait à peu près d'où on est parti, mais on ne sait pas vraiment où on va arriver. Et donc, j'ai l'impression, moi, plutôt qu'on parle d'évolution, qu'on est rentré dans l'ère digitale et que c'est un éternel recommencement, renouvellement. Désormais, on évolue. C'est plus réellement une transformation, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à un point d'arrivée, mais on est en perpétuelle évolution. Et c'est ça que je trouve intéressant de signifier aujourd'hui.
On peut se poser la question, est-ce qu'on peut revenir en arrière ? Comment vous voyez les choses ? Quelle est votre lecture, Sébastien Chemin ?
Oui, alors moi je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire François. Effectivement, on est sur une forme de transformation continue. Donc ça, c'est très très intéressant. En fait, avant, on pouvait éventuellement se poser la question de... est-ce qu'on va se transformer ou pas sur le plan du digital ? Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus une question qu'on se pose. La question qu'on pourrait se poser, c'est combien de temps on va survivre si jamais on devait ne pas se transformer. Donc, je crois qu'aujourd'hui, toutes les entreprises en ont pris conscience. On est dans un modèle d'évolution perpétuelle, comme le disait François. Donc, finalement, notre enjeu majeur, c'est de voir comment on y entre dans ce modèle et comment on emmène tout le monde dans ce modèle-là. Mais je crois que l'essentiel des entreprises s'en sont rendues compte.
Pendant longtemps, on pensait que le digital, c'était l'affaire juste des ingénieurs, des gens très intelligents comme vous. Il y en a beaucoup des ingénieurs chez Eiffage. Et puis, ça s'est immiscé dans tous les secteurs, dans tous le tissu économique. On assiste à une véritable prise de conscience. Vous pensez même qu'on ne peut plus faire marche arrière maintenant, François Castan ?
Ah, moi, je pense que oui, on est dans l'ère du digital, comme on le disait tout à l'heure, et Sébastien l'a confirmé. Je pense qu'il n'y a plus véritablement de machine arrière. En revanche, il y a vraiment du bon sens à mettre dans tout ça et laisser le digital à sa place. C'est-à-dire que je crois vraiment important de réaliser que le digital est au service de l'homme et pas l'inverse. Et parfois, on a un peu tendance à l'oublier. Et je trouve que dans nos activités du quotidien, dans notre vie professionnelle comme dans notre vie privée, c'est crucial d'avoir ça en tête.
Vous parlez de l'homme plus largement, on peut parler du monde. Hein. Tout le monde, après le Covid, a dit, même notre président, il y aura un monde après Covid, il faut penser à l'écologie. Donc voilà, je glisse sur la table, dans le débat, ce mot écologie, ça a à voir avec ?
Alors complètement. Et je crois que c'est le moment ou jamais de réconcilier transformation digitale et transformation écologique de notre monde. Je pense que l'un désormais ne va pas sans l'autre, que les deux transformations sont aussi urgentes et finalement convergentes l'une que l'autre. Et je pense que même si spontanément on ne pense pas écologie quand on pense digital, aujourd'hui on ne peut plus parler d'écologie sans parler de digital et réciproquement. L'une tire l'autre, l'une entraîne l'autre. Et je trouve que c'est ce mouvement de va-et-vient qui est véritablement une force pour les deux, pour le digital comme pour l'écologie.
Alors c'est vrai que moi, j'étais un petit peu triste de voir que le monde futur allait être celui de gens juxtaposés devant leur écran. Hein, c'est ça, c'est comme si c'était individuel, le digital. Vous partagez mon point de vue, cette inquiétude ?
Ah non, moi je ne partage pas cette inquiétude-là. Bon, en tout cas, je vais le dire différemment.
Non,
pas du tout, mais je vais vous expliquer un point de vue qui est peut-être un peu différent de celui que vous venez d'exprimer. Vous parliez de notre président parce qu'on est sur un sujet de société quand on parle du digital, et vous avez raison. Et en fait, je suis persuadé, Fabienne, que vous déclarez vos impôts sur Internet. Je suis persuadé qu'il y a quelques factures que vous recevez par voie électronique. Et je crois qu'on est nombreux à être dans ce cas-là. C'est Donc vrai. Je crois que si je remets le sujet sur le plan humain, parce que finalement... qui mieux qu'une entreprise de BTP pour...
Vous cassez l'ambiance tout de suite, si vous parlez des impôts, attention. Hein.
Ah ben non, mais je vous dis juste que c'est un sujet où le digital arrive dans nos vies à chacun, en fait. Et il arrive dans nos vies, il arrive dans l'entreprise très naturellement aussi. Et dans le BTP, peut-être un petit peu plus tard que dans d'autres secteurs d'activité, en tout cas c'est ça qu'on peut constater. Et je vois des raisons majeures à ça. Une première raison, c'est que le savoir-faire de notre entreprise, il est justement dans les mains des hommes qui la construisent. Donc ça, c'est le premier point. Et ça, c'est difficile à chambouler, hein, parce que les mains du compagnon, c'est les mains des compagnons. Et c'est ça qui fait la force de notre métier. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas eu... dans l'industrie du BTP et des concessions, des modèles aussi disruptifs qu'on a pu connaître dans d'autres secteurs d'activité. Je pense au tourisme avec du Airbnb, aux sociétés de taxi avec un Uber. On a eu des tentatives, évidemment, dans l'industrie du BTP pour renverser un peu la table sur ces sujets-là, mais elles ne sont pas arrivées au bout, ces tentatives-là. Donc ce modèle disruptif de l'industrie de la construction, il n'est pas encore arrivé à nos portes. Donc ça, c'est la deuxième raison. Maintenant, au même titre que les autres entreprises, le BTP se soucie malgré tout des bienfaits de ce digital, et non pas que ce soit des personnes juxtaposées sur des ordinateurs, mais on se dit plutôt que ça va être un vivier extraordinaire d'innovation pour nous, le digital, et ça va être un moyen pour les uns et les autres de mieux travailler au quotidien, d'améliorer notre performance opérationnelle, et puis de rendre aussi un meilleur service à nos clients. Donc ça, je crois que c'est très important pour nous.
Moi, je pensais également que la digitalisation dans l'industrie des grands groupes industriels allait dire, ça, c'est pour ceux qui sont sur le terrain, maintenant, ils ont des tablettes, c'est plus simple. Évidemment, en préparant cette émission, je me suis rendu compte que toute la stratégie du groupe Eiffage a intégré la digitalisation. Vous pouvez nous raconter ?
Oui, alors en fait... On a intégré la digitalisation au même titre que la transition écologique. C'est au cœur de notre plan stratégique, c'est évident. C'est urgent, François l'a rappelé. Pourquoi c'est au cœur de notre stratégie ? D'abord, parce que c'est une manière pour nous de repenser notre chaîne de valeur. On peut se repositionner en tant qu'apporteur de services, en tant que conseil auprès de nos clients, grâce au digital. Ça, c'est une certitude. Et puis, si je vous fais un tout petit brin d'histoire, mais qui va durer 10 secondes, quand l'informatique est arrivée sur les chantiers dans l'industrie du BTP, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, en fait, l'informatique a posé un problème. Elle a écarté l'encadrement du chantier. En fait, petit à petit, on a eu les encadrants qui se sont retrouvés au bureau, en train de remplir des fichiers Excel, en train de nourrir une bête informatique pour le bien du central. Ça, c'était le début de l'histoire, un début nécessaire. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là, en fait. L'ère du digital, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de mettre le digital au service de nos opérations. C'est d'aider nos équipes à mieux travailler au quotidien en améliorant la performance de leur processus. Donc ça, c'est génial, parce que ça remet l'encadrant qui était justement sur son PC, à côté de l'autre, en train de remplir ses fichiers Excel, ça le remet au cœur du chantier pour l'intelligence collective et pour faire profiter chacun de sa présence. Voilà, et c'est notre sujet dans le BTP de réussir à travailler ensemble.
Je vous propose d'essayer d'appréhender, pour ceux qui nous écoutent, cette digitalisation au sein d'Eiffage. Peut-être dans un premier temps, dans la mesure où elle concerne l'interne, et puis après on parlera de l'externe, et j'ai cru comprendre que même le commercial est impliqué. Alors François Castan, je me tourne vers vous. Comment ça se traduit chez Eiffage, et notamment du point de vue de l'organisation interne, cette digitalisation ?
Alors, pour les sociétés d'APRR, donc concessionnaires d'autoroutes, on a appelé notre transformation digitale NUMA. NUMA comme numérique autoroute. Et on s'est attelé d'abord dans un premier temps, si vous prenez un vase, considérez que la transformation digitale est un vase. Dans ce vase, on a mis des gros cailloux d'abord. Et ces gros cailloux, ce sont toutes les applications métiers pour nos collaborateurs qui sont sur le terrain et qui ont besoin d'outils digitaux. Donc on a commencé par créer des applications métiers pour répondre à leurs besoins de tout de suite. Et la réussite, pour moi, elle se concrétise en un seul mot. Maintenant, ils parlent de mon humain. Une expression, ils disent mon humain. Où est mon humain ? Je n'ai pas mon humain est en panne. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au début, si on avait pu avoir un peu de réticence, c'est normal, changement, réticence, aujourd'hui, il y a une exigence face à ces outils digitaux qui est remarquable. C'est-à-dire que dès que mon humain est en panne, ce n'est plus acceptable. Donc on voit bien que là encore, le digital a été au service de l'homme, au service des collaborateurs, et ce service aujourd'hui est indispensable. Et ce qui est intéressant, et je rebondis sur ce que disait Sébastien, moi j'y crois beaucoup, c'est-à-dire que le digital nous permet de nous soulager des tâches rébarbatives, des tâches répétitives à peu de valeur ajoutée, pour nous concentrer finalement sur quoi ? Ben sur ce qui fait que nous sommes des hommes et sur ce qui fait que la machine n'est pas encore prête à nous remplacer complètement, c'est-à-dire l'intelligence collective. Et c'est étonnant de voir que depuis le Covid, qui a été un catalyseur phénoménal avec les outils comme Teams qui nous ont permis de rester en contact, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais quasiment autant travaillé en collaboration que depuis qu'il y a l'outil de visioconférence. On est beaucoup plus dans l'écoute, beaucoup plus dans le travail collectif, beaucoup plus qu'avant. Un autre exemple, ce sont les post-it. Les post-it qui étaient probablement voués à une mort certaine il y a quelques années. En tout cas, on disait, bon, c'est du papier. Aujourd'hui, les post-it sont utilisés de plus en plus grâce à tous ces ateliers qu'on fait. Alors, un peu moins en ce moment parce qu'on ne peut pas se déplacer. Mais juste avant la pandémie, on faisait beaucoup d'ateliers d'intelligence collective où on faisait du design thinking, par exemple, où on mettait les gens dans une même pièce à réfléchir ensemble sur quelles sont les innovations qu'il faut mettre en œuvre demain, comment est-ce qu'on peut améliorer tel processus, etc. Donc je trouve qu'il y a un vrai paradoxe, c'est qu'un peu de digital semble éloigner les hommes et les femmes entre eux, et beaucoup de digital, finalement, pourrait bien les rapprocher. Oui.
Donc de ce que je comprends, il ne s'agit pas juste d'introduire la digitalisation dans vos métiers, mais vous essayez de faire en sorte que tout le monde embarque dans ce train. Vous avez envie de laisser personne de côté, je ne vais pas dire à côté de la route, mais à côté de l'autoroute, hein, quand je parle au responsable d'AP2R. Rappelez-nous sur quelle zone on retrouve vos autoroutes, d'ailleurs, en France.
Paris, Rhin, Rhône et les Alpes, la région Rhône-Alpes.
Donc, on parle d'inclusion, quoi.
Oui, on parle d'inclusion, puisque notre adage, c'est vraiment le numérique pour tous, avec une identité numérique pour chacun. Chacun doit pouvoir avoir accès au numérique. Donc, c'est chaque collaborateur qui est doté d'un identifiant et d'une boîte mail. Ça, c'est la première étape, bien sûr. Après, on lui donne les outils idoines pour exercer son travail dans les meilleures conditions. Mais c'est vraiment très inclusif, notre démarche. C'est une identité numérique pour tous.
Ben, on va se transporter vers Kroll, hein, en France, puisque Nadège Roser, qui a été péagiste, je ne sais pas comment on dit...
Péagère.
Merci. Péagère, ça se conjugue au féminin, a vu cette digitalisation arriver et elle nous en parle, on l'écoute. Nadège Roser, bonjour. Vous travaillez sur le réseau autoroutier ARIA dans la zone Rhône-Alpes. Bonjour.
Oui. Bonjour.
Alors, aujourd'hui sur le péage de Kroll, mais avant, vous avez été tout simplement receveur péage. Alors, on comprend ce que c'est. On est tous passés dans nos voitures à mettre de l'argent au péage. Et vous dites que ce métier, il n'est plus le même. Il a été digitalisé. Comment vous l'avez vécu ?
Alors, ça a été une expérience vraiment intéressante, puisque d'un travail routinier où nous avions l'habitude de recevoir la clientèle dans des voies et de ramasser l'argent simplement. On est passé à des outils informatiques plus performants et la relation clientèle s'en est trouvée vraiment changée et plus efficace aussi, plus rapide. Donc c'est vrai que ça a été un vrai changement.
Est-ce que dans l'évolution de vos métiers, la digitalisation, elle a pris d'autres formes ? Comment vous traversez cette mutation de vos métiers, de vos fonctions ?
Bah, ça, c'est quelque chose de très positif, d'ailleurs, pour l'ensemble du personnel, puisque on a un gain de temps, on a une meilleure communication entre nous, on a vraiment une amélioration aussi de notre expérience. Donc, c'est vraiment plus intéressant, ça nous permet d'être plus efficace aussi. Et puis, il y a une variété d'outils qu'on utilise qui nous permet vraiment d'être très, très efficace.
Comment vous avez pris ce virage ? Ça demande de la formation, du temps ou finalement c'est un processus qu'on continue ?
Alors, ça a été un processus assez régulier. On a suivi des formations internes qui nous ont permis de nous adapter aux nouveaux outils. Donc, ça a été vraiment des formations intensives qui nous ont permis de nous adapter le plus rapidement possible à ce changement. Et progressivement, effectivement, on a pu s'adapter à tout un nouveau système de travail, un travail à distance.
Pour vous, cet univers des autoroutes que vous connaissez parfaitement, c'est un espace privilégié pour voir cette digitalisation s'appliquer. Vous l'avez vu par vous-même, chez vos collègues, dans le groupe ?
Oui, effectivement. Ça a permis de vraiment consolider notre travail. La communication entre nous, ce qu'on appelle les fameuses teams, nous permettent de vraiment tous communiquer ensemble, alors qu'on ne peut pas se réunir actuellement avec le Covid, avec la situation actuelle. Donc, ça permet de rendre les échanges bien plus efficaces. Et tout le monde a très bien suivi le changement. Hein.
Pourriez-vous nous parler de votre poste actuel ? Est-ce que, en tout cas, pour la partie qui relève du digital ?
Donc, actuellement, je suis conseillère clientèle. Donc, je suis chargée de vendre, de commercialiser les télépéages qui vous permettent de circuler sur les autoroutes librement avec un gain de temps et une simplification pour vous, pour vos trajets sur les autoroutes, toutes les autoroutes de France. Et donc, avec la digitalisation, eh bien maintenant, on a un rendement plus intéressant, on a une meilleure communication, on a une centralisation des informations. Et puis ça nous permet vraiment d'être au maximum outillés dans tous les domaines informatiques, Gmail, Drive, OneNote, Word, vous voyez, tous ces domaines qui demandent à ce qu'on soit efficace et qui nous permettent de vraiment avancer encore mieux, de mieux traiter la demande de notre clientèle et d'être plus efficace quand on leur répond. Notre clientèle actuellement est de plus en plus attaché à Internet. La communication se fait de plus en plus par Internet. Et donc, cette numérisation, ça nous a vraiment permis de créer un travail plus efficace.
Merci.
Et plus ciblé. Notre clientèle est mieux servie.
Merci infiniment, Nadège Rozer, pour ce témoignage. Merci. Alors, c'est intéressant, on se rend mieux compte comment ça se passe sur le terrain. Sébastien Chemin, comment faire pour emmener tout le monde ? C'est quand même un sacré défi quand on est dans un groupe qui a combien ? 72 000 collaborateurs.
72 000 collaborateurs, oui. Alors déjà, moi, j'ai envie de dire bravo, Nadège, parce que quand même, c'est un exemple pour nous. Enfin, tout le monde a envie d'avoir une collègue comme Nadège. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais cette capacité...
Bravo, je suis d'accord.
Cette capacité d'adaptation est extraordinaire, mais finalement, elle n'est pas si étonnante que ça. Et moi, ce que je retiens du témoignage de Nadège, d'abord, avant de répondre à votre question, c'est que le digital n'est pas destructif. Et ça, c'est important pour une boîte humaine comme la nôtre. Donc, il ne faut surtout pas que le digital vienne détruire l'emploi ou détruire le métier des gens. Au contraire, en fait, je crois que le digital doit nous aider à monter dans la chaîne de valeur et à monter dans la chaîne de compétences au sein de notre, au sein de chaque entreprise et particulièrement la nôtre. Donc ça, c'est un point très important. Vous l'avez dit, il faut laisser personne de côté. Donc ça, c'est un point important dans notre digitalisation. Et François a commencé à en parler sur l'identité numérique. En fait, notre président, Benoît de Ruffray, il a lancé un programme qui s'appelle FH Connexion. FH Connexion, il a plusieurs volets. Le premier, c'est de se dire que tout le monde doit être à égalité sur les moyens d'accès à la ressource digitale. Pour être à égalité sur l'accès à la ressource digitale, il faut commencer par ce qu'a dit François, une identité numérique. Alors, si je dégrossis le sujet, je le vulgarise un peu, une identité numérique, c'est quoi ? C'est une adresse mail. D'accord ? Donc, tous les collaborateurs du groupe ont une adresse mail. Mais cette adresse mail leur sert aussi d'identifiant pour accéder aux ressources digitales de l'entreprise. Alors, deuxième aspect, on est le plus souvent équipé d'un smartphone, d'un ordinateur, mais certains de nos collaborateurs n'en disposent pas. Et donc, il faut aussi leur donner la possibilité d'avoir accès à cette ressource digitale. Et pour ça, nous déployons dans des centaines de chantiers, de centres de travaux, des bornes FH Connexion. Et ces bornes FH Connexion, en fait, elles permettent à tous les collaborateurs, sur la base de leur identifiant, d'aller se connecter aux ressources digitales. Donc aujourd'hui, tout le monde est à égalité chez FH, et ça, c'est très important, sur l'accès à la ressource. C'est un sujet qui nous est cher. Et FH Connexion, c'est aussi le nom, d'ailleurs, de notre intranet groupe, puisque quand on se connecte le matin chez FH, on arrive sur FH Connexion. Mais si je suis compagnon et que je me connecte à une borne, j'arrive aussi sur FH Connexion. Et ça, encore une fois, c'est très important.
Pour je le disais en préambule, hein, au moins 100 000 chantiers pour FH en un an. Donc vous êtes sur le terrain. Et il y a quelque chose que vous appelez le digital tout-terrain.
Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que digital tout-terrain. Alors là, c'est un sujet qui m'est cher, puisque c'est chez FH Energy System notamment que nous déployons ce dispositif. En fait, on dit qu'il faut laisser personne sur le bord de la route. Mais alors, pour laisser personne sur le bord de la route, évidemment, il faut donner les moyens, c'est ce que je viens de vous dire, d'accès à la ressource digitale. Mais ensuite, il faut expliquer le sens de ce qu'on fait. Il faut venir au plus près du terrain pour expliquer ce que nous sommes en train de faire. Quel est le sens, la vertu de notre digitalisation. Et puis l'avantage, quand on va au contact, c'est qu'on a du feedback et que les gens s'expriment sur la manière de recevoir ce digital dans l'organisation. Et pour progresser dans l'acceptation du digital, il faut aussi savoir être à l'écoute du terrain.
Alors moi, je connaissais l'illettrisme. Avec vous, en préparant l'émission, j'ai appris ce mot, l'électronisme. Vous devez y faire face. Hein, quand on en parle, tout paraît facile. Mais non, il y a des gens qui peuvent se sentir exclus. Comment vous les ramenez proches pour rompre cet électronisme ?
Alors, électronisme, je ne sais pas si... Enfin, personnellement, je ne crois pas connaître des personnes qui sont totalement... dans un état d'électronisme total. En revanche, oui, il y a certainement, et on en connaît, des personnes qui ont plus de difficultés à s'approprier les outils digitaux. Nous avons créé un carnet de voyage digital qui est un système un peu à la carte qui permet à chacun, chacune, de s'approprier les outils avec un plan de formation à la fois collectif et à la fois individuel. Donc on fait des roadshows sur le terrain. On audite un petit peu les personnes, surtout le middle management, effectivement. C'est surtout ces personnes-là qui ont besoin qu'on les accompagne plus parce qu'elles ont vu très rapidement, en fait. Elles se sont vues un petit peu contraintes d'utiliser des nouveaux outils digitaux. Donc ça s'accompagne. Donc on leur explique le fonctionnement. On est à leur écoute et on leur fait des plans de formation. Et puis ensuite, on passe à un autre centre.
Alors, on se rend compte que, selon les métiers, hein, je le disais, FH est un groupe qui a différents métiers, énormément de facettes. Et le digital, certes, touche tous vos métiers, on l'a bien compris. Maintenant, comment faire ? Quelle est votre vision dans vos différents métiers ? On ne va pas tout passer en revue, mais quelle est votre lecture ?
Non, on ne va pas tous les passer en revue, mais vous avez raison, tous les métiers se digitalisent. Donc, on n'est pas à se dire, il n'y a que les finances, il n'y a que les ressources humaines qui prennent du digital dans leur évolution. Tous nos métiers se digitalisent. Et sans aller partout, je vous dirais que la prévention, c'est un domaine majeur, évidemment, dans une entreprise de bâtiments et de travaux publics. Outiller la prévention par du digital, c'est fondamental pour nous parce que ça aide nos équipes sur le plan de la prévention et de la sécurité sur nos chantiers. Toutes les branches du groupe aujourd'hui sont dotées de solutions qui concourent à cet objectif majeur pour nous. Le digital, ça nous permet aussi, dans le cadre de nos offres, on revient sur la transition écologique, d'être en capacité à calculer les émissions carbone que peuvent produire notre offre une fois que nous l'aurons livrée une fois que nous aurons livré nos produits à nos clients. Et ça, c'est très intéressant parce que les alternatives, on est en capacité à les mesurer et donc à être de bons conseils pour l'empreinte carbone, alors la nôtre et ceux de nos clients, évidemment. On entend parler du BIM depuis longtemps sur nos métiers. C'est une manière pour nous de digitaliser toute la chaîne de production bâtimentaire, depuis la conception jusqu'à son exploitation. Et puis le digital, ça permet aussi de suivre son chantier de manière digitalisée, d'effectuer nos contrôles qualité de manière beaucoup plus simple, et puis d'avoir une meilleure maîtrise finalement de toute notre chaîne de production. Donc ça, c'est très intéressant pour nous. Ce qu'il faut comprendre, en fait, ce digital... Je crois que je pourrais passer des heures à vous expliquer partout où le déploie.
Il nous reste encore un petit peu de temps, allez-y.
Mais je crois que ce qui compte surtout, c'est le temps que ça nous fait gagner. Parce que, j'y reviens, je suis désolé d'insister, mais je crois que le domaine fondamental pour nous, c'est que l'encadrement se retrouve au milieu des équipes. Et pour ça, finalement, cette digitalisation, elle permet de gagner du temps. Et chaque minute gagnée, c'est une minute qu'on passe à mieux préparer son chantier. C'est une minute qu'on passe à mieux sécuriser son chantier. C'est une minute qu'on passe à mieux briefer ses équipes sur le chantier et à être au plus près d'elles. Et puis, évidemment, au plus près de nos clients aussi.
Alors sur le terrain opérationnel, la transformation numérique, c'est une priorité pour conduire les changements nécessaires en matière d'écosystème d'information, de processus de collaboration, de pilotage des chantiers, qualité des ouvrages réalisés aussi. Quels sont, François Castan, les nouveaux outils mis en place? Si vous avez quelques exemples en tête, peut-être, pour qu'on comprenne.
Oui, pour compléter ce que disait Sébastien, il y a aussi la Startbox que nous avons mis en place au sein du groupe, qui est vraiment un outil très utile, autant qu'intéressant, parce que ça permet de partager, d'innover collectivement. Vous l'avez compris, j'aime beaucoup l'intelligence collective. Je trouve que c'est quelque chose qui fait ce que nous sommes, des hommes et des femmes, voilà, par rapport à l'ordinateur. Donc, cette Startbox est une vraie réussite. Elle permet de partager au plus grand nombre, avec le plus grand nombre, les bonnes idées. On s'est rendu compte, comme ceci, que certaines idées existaient déjà ailleurs, n'étaient pas suffisamment partagées. On a l'impression d'avoir une idée géniale, mais en fait, elle a déjà été inventée ailleurs. Donc, le partage de l'information, ça aussi, c'est une des clés, un des bénéfices du digital, c'est-à-dire l'accès à l'information, l'accès au savoir qui nous sort petit à petit de l'ignorance.
Et on travaille en temps réel. Hein. Tout à l'heure, Sébastien Chemin parlait de temps. Vous aussi, vous trouvez que c'est un bénéfice?
Ah oui, très certainement. Ça nous fait gagner beaucoup de temps réel, mais aussi, je pense, du temps futur. C'est-à-dire que ce n'est pas que du temps réel. Toutes ces applications que nous développons dans toutes les branches du groupe pour nous faire gagner du temps sur la réponse d'appel d'offres, pour nous faire gagner du temps sur l'exploitation d'un chantier, tout ça, c'est autant de temps gagné, aussi bien tout de suite que demain.
Point de vue outils, hein, vous avez une telle panoplie qu'on peut encore en citer, Sébastien Chemin, chez Flash Construction, qu'est-ce qu'il y a à disposition?
On peut en citer, alors je vous parlais du BIM chez FH Construction, mais je pourrais vous parler de FinalCAD, par exemple, qui est un outil qui nous aide à faire du contrôle qualité, justement, sur nos chantiers, qu'on a commencé à déployer dans une branche qui est la branche construction du groupe, mais finalement, on ne s'est pas arrêté là, parce que... Vous l'avez compris et vous l'avez très bien dit, FH, ce n'est pas qu'un groupe de construction bâtimentaire. On fait aussi de la route. Et donc, FinalCAD s'est intéressé à la manière dont la route travaillait et finalement a construit une solution qui leur correspond parfaitement dans le cadre de l'optimisation de leurs travaux au quotidien, qui n'a rien à voir avec la solution initiale de la branche construction. Et puis, Energy System, nous sommes arrivés ensuite aussi à utiliser cette même typologie d'outils. Je crois que c'est intéressant aussi dans un groupe comme FH, et plus on échange, plus on se rend compte de ça. François parlait d'intelligence collective. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup chez FH, c'est que on est un groupe compact. Et cette compacité nous permet d'avoir des synergies extraordinaires. Là, je suis très heureux parce que APRR, aujourd'hui, la solution sécurité d'APRR qui est utilisée dans Numa est issue d'un développement qui est d'abord né dans la branche énergie système du groupe. Et inversement, parce qu'aujourd'hui, APRR se sert d'outils opérationnels qui nous sont très utiles au quotidien également pour optimiser nos travaux. Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on continue à échanger et des outils, on en a des centaines.
Et en plus, hein, je rejoins tout à l'heure, François Castan parlait de ce qui se passait sur le bilan carbone, sur les gains par rapport à la protection de la planète. Ces bénéfices d'efficacité opérationnelle, ils ont l'air d'être plutôt positifs pour le développement durable.
Oui, ils sont positifs pour le développement durable. Ce qui est intéressant, à chaque fois qu'on déploie un outil digital aujourd'hui, en fait, c'est que ça produit de la donnée. Et la donnée, c'est une nouvelle source de valeur pour l'entreprise. Et cette donnée, ça peut être une donnée qui nous aide à comprendre notre consommation énergétique. Et à partir du moment où on comprend sa consommation énergétique, on est en mesure de l'améliorer. Et je peux vous en parler un petit peu parce que l'IA, c'est un domaine d'intelligence artificielle qui me passionne. Mais finalement, la première marche qu'il faut qu'on ait dans l'entreprise, c'est de capturer des données au travers de ces outils digitaux que nous déployons au fur et à mesure. Et la deuxième étape, c'est d'analyser les données que nous avons générées à partir de ces...
Si on reste sur le volet énergie, ça veut dire qu'on ne va pas consommer une énergie dont on n'a pas besoin.
Exactement,
quoi.
Ça veut dire que globalement, on est en capacité à capturer des données de consommation énergétique et qu'on est en capacité à les optimiser. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, on a des super exemples dans le groupe qui le démontre.
Merci de me faciliter la transition. Xavier Barthélémy, directeur matériel de la branche infrastructure d'EFAGE, a été interviewé. Il nous parle de l'usine connectée. On l'écoute. Xavier Barthélémy, bonjour. Vous êtes le directeur matériel de la branche infrastructure d'EFAGE. Bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Alors, sur le terrain de l'efficacité, également, la digitalisation semble vous faciliter la vie. Vous pouvez nous expliquer comment ça se décline dans votre périmètre, hein, la digitalisation ?
Alors, à terme, ça va se décliner dans presque dans tous les domaines, mais l'initiative, elle est arrivée par nos industries chez FageRoot, en particulier, hein, qui dispose de beaucoup d'industries, et notamment avec la digitalisation, avec la gestion de l'énergie dans un premier temps, hein, qui a été un peu notre cheval de bataille sur la précédente décennie, et puis vers les années 2017-2018, pour gérer efficacement toutes les problématiques qu'on avait découvertes et amener auprès de nos hommes la capacité effectivement de progresser et d'avoir le meilleur du savoir-faire de tous nos compagnons, on s'est aperçu qu'il fallait gérer la data, la mettre en forme et arriver effectivement à amener un outil de meilleure performance, alors à la fois sur l'énergie, mais on est très vite tombé dans la performance organisationnelle et donc dans la performance en général, puisqu'on a parlé carbone après, vers la fin de la décennie. Donc voilà un peu l'origine chez FageRoot du sujet de data.
Oui. Alors dans la route, dans la route, l'usine connectée, elle permet un pilotage énergétique en temps réel, en comparatif des centrales d'enrobées. Là, c'est employé sur beaucoup d'installations. Tout le parc va être visé.
Alors, tout le parc va être visé. On a effectivement amené via la digitalisation une aide au pilotage en temps réel de nos installations. Et puis derrière, une capacité d'analyse des performances et donc de définir des objectifs précis. Et donc ça, on est en cours de déploiement. Je dirais que fin 2022, tous nos outils industriels seront déployés au niveau des enrobés.
Et donc, il y a beaucoup de données migrées sur le cloud. Ça se fait facilement. Il y a une appropriation d'ailleurs facile par les collaborateurs.
Alors, l'objet, ce n'est pas que les collaborateurs s'approprient ces données, c'est que l'outil soit conçu pour les traiter, que les bons algorithmes soient rentrés. On va dire que les algorithmes, c'est un mot barbare, mais en réalité, ça n'est que la transcription du savoir-faire de nos hommes dans des programmes. Et l'usine connectée est un programme qui collecte en fait en temps réel via ces algorithmes et via les data connectées, les objets connectés qu'on a rajoutés pour avoir un certain nombre d'éléments. Ils mettent en œuvre effectivement pour donner 3-4 indicateurs en temps réel qui sont l'aide à un meilleur pilotage. Et ça, c'est vraiment l'innovation. Et là, tous les services d'Eiffage et un certain nombre de start-up sous-traitantes spécialisées dans le temps réel ont mis en œuvre effectivement tout leur savoir, la DSI, une équipe spécialiste data, mais connaissant le matériel qu'on a créé de toutes pièces. Et tout ça, ça a conduit effectivement à l'aboutissement de ce programme, d'abord sur les usines, mais on en parlera peut-être sur d'autres domaines derrière.
Et est-ce qu'il y a des bénéfices chiffrés, si on parle de cas concrets métiers, en termes de performance, le bénéfice est tout de suite palpable, non ?
Le bénéfice est tout de suite palpable et en général, effectivement, avec quand on collecte des datas et qu'on les met en forme, qu'on les analyse, on trouve, comme quand on le fait sur le papier, on trouve tout de suite effectivement les points sur lesquels on va pouvoir attaquer immédiatement des actions. L'avantage effectivement de cette digitalisation, c'est que ces actions, on va être sûr qu'elles vont pouvoir se mesurer et continuer dans le temps, ce qui n'est pas le cas quand on fait des actions comme ça à un endroit et à un autre sans les digitaliser, parce que c'est lié à des hommes qui à un moment vont être là, vont avoir effectivement la conviction d'y aller. Aujourd'hui, on est sûr qu'on va pouvoir, sur la longue durée, puisque l'empreinte carbone vers laquelle on a les objectifs à 2030, clairement, ça nous inscrit dans le temps, et le temps durable, c'est lié à la digitalisation qui nous aide à ça.
Merci Xavier Barthélémy, vous êtes directeur matériel de la branche infrastructure d'Eiffage. Merci pour ce témoignage. Le digital a ses vertus qu'il prend en charge beaucoup de tâches qu'on n'avait pas nécessairement envie de faire, hein, répétitifs, pénibles. C'est ce que vous voyez chez FH, Sébastien Chemin ?
Oui, absolument. C'est ce qu'on voit au quotidien. Mais je pense que... Moi, je fais une distinction entre deux grands ensembles sur le digital. Un premier de ces grands ensembles, c'est ce que j'appellerais les outils régaliens. Vous savez, dans une entreprise, on a des outils qui sont unifiés. Toute l'entreprise va se servir des mêmes outils sur la sphère des ressources humaines, sur la sphère des finances, sur la sphère des achats. Et on en comprend évidemment très vite les enjeux et la nécessité parce qu'il y a des besoins de consolidation sur ces sujets. Et nous avons de nombreuses entités chez FH. Mais nous avons aussi un second ensemble qui est un ensemble que j'appellerais les outils métiers. Et dans ces outils métiers, en fait, on peut faire plein de choses. Vous disiez très justement qu'EFH, c'est 100 000 chantiers par an. Dans ces 100 000 chantiers, Énergie Système, branche métier du groupe EFH, on en fait 50 000 de ces 100 000.
Mais dans vous n'oubliez pas de mettre en valeur votre activité. Oh. Attention, j'attends la réponse du côté d'AP2R.
Vous avez raison.
Mais vous avez bien raison.
On fait partie du même groupe. Mais ce que je peux vous dire, en tout cas, peut-être notre particularité, c'est pour ça que j'ose en parler, on a des activités, des savoir-faire très différents chez Energy System. Quand on fait 50 000 chantiers, en fait, ce n'est pas 50 000 fois le même type de chantier. Chez Energy System, on va faire de l'éclairage public, on va déployer du réseau fibre optique dans notre direction télécom, on va faire des hyperviseurs pour les villes, on va construire des bancs de test pour l'industrie automobile, on va faire du génie électrique, du génie climatique dans les bâtiments tertiaires. Donc vous imaginez bien que la problématique de notre technicien qui installe une climatisation dans un immeuble n'est pas la même problématique que celui qui va finalement s'occuper de la maintenance d'un candélabre dans une ville.
Comment on automatise des tâches aussi diverses ? C'est un
justement,
sacré challenge.
Justement, et finalement, celui qui est le plus capable d'automatiser la tâche, c'est celui qui l'a fait. C'est très lean, ça, comme état d'esprit. C'est-à-dire que c'est vraiment quand je suis au cœur du sujet, au cœur de la problématique, que je suis en mesure de faire. Alors, comment on a fait chez EFH ? En fait, on a créé une usine à produire très rapidement des solutions digitales. Et cette usine, on l'appelle la Digital Factory.
Non, mais vous êtes formidable parce que je n'ai plus de transition à faire. C'est la digitalisation du journalisme. Il n'y en a plus besoin puisque vous venez d'introduire magnifiquement, Sébastien, le témoignage de Stéphane Rousseau, directeur DSI EFH, qui nous parle de la Digital Factory. Stéphane Rousseau, bonjour. Vous êtes le directeur de la DSI chez EFH et le groupe a lancé il y a à peu près un an la Digital Factory. C'est un levier important pour cette digitalisation que vous évangélisez dans le groupe.
Bonjour, oui, tout à fait. La Digital Factory, c'est à la fois une organisation et une façon de fonctionner. C'est une organisation parce qu'on a mis en mobilisé des compétences techniques et des outils informatiques qui permettent de développer des solutions digitales, mais c'est aussi une façon de fonctionner parce que c'est un mode collaboratif que l'on essaie de promouvoir pour pouvoir couvrir tous les petits irritants du métier, numériser des processus qui ne sont pas encore couverts par les applications principales du groupe, évidemment s'adapter au terrain parce que la Digital Factory, ce sont des solutions mobiles, et puis c'est générer de l'innovation numérique très proche des métiers, donc avec tous nos représentants métiers qui ont des idées et qui veulent prendre des initiatives dans un univers numérique.
Vous avez quelques exemples en tête, quand vous dites quelques irritants, ça peut répondre, ça peut être des solutions. Pour quel type de mission, par exemple ?
Eh bien, ça peut être, par exemple, faire des suivis de photos de chantier, ça peut être avoir des petites analyses environnementales, encore une fois, sur des chantiers, ou suivre les déchets de démolition, les déchets de fin de chantier, faire une fiche accueil de sécurité. Toutes ces petites choses qu'on ferait soit sur du papier, soit dans des fichiers Excel ou avec des outils qui ne sont pas des outils qui sont très solides ou très sécurisés. Donc voilà, ce sont tous ces petits sujets que l'on essaie de couvrir.
Comment faites-vous pour que les acteurs de terrain s'approprient les outils ? C'est le même outil pour tout le monde ?
Alors non, chaque outil est développé vraiment sur un petit sujet particulier. Alors on a travaillé de façon différente. D'abord, certains de nos métiers ont organisé des hackathons pour réunir effectivement tous les opérationnels en disant
qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce que vous voudriez faire. Et puis, on a aussi un espace collaboratif, un intranet de cette Digital Factory qui permet à chacun d'aller soit proposer une idée, une initiative, soit au contraire, voir le catalogue des initiatives existantes et puis de s'en inspirer ou de demander des évolutions. Et après, bien entendu, on essaie de faire rayonner tout ça sur les chantiers, avec l'aide, encore une fois, des opérationnels dans les régions, pour promouvoir cette culture numérique dans la vie du quotidien, vraiment numériser tous les processus métiers, y compris les processus qui sont dans les mains des compagnons, parce que nous sommes attachés aussi à cette culture numérique des compagnons.
Alors, il y a une génération numérique, certes, qui est venue aux commandes, mais pour ceux qui sont un petit peu réticents, est-ce qu'ils se disent pas « Oh là là, je vais devoir apprendre le codage informatique », quelles sont les réactions ?
Ah oui, alors c'est une bonne remarque. Alors, en fait, on essaie de valoriser le partage d'idées et on essaie de co-construire. C'est-à-dire que dans le cadre de la Digital Factory, si vous avez une idée mais que vous êtes rétif à l'informatique, évidemment, on va faire le travail pour vous. En revanche, vous avez des gens qui aiment utiliser les outils qu'on propose. Alors, il ne s'agit pas vraiment d'écrire des programmes informatiques au sens le plus traditionnel du terme, mais par le paramétrage d'outils, l'assemblage de modules, il est tout à fait possible dans le cadre de la Digital Factory pour un non-informaticien de construire rapidement une petite solution qui sera solide, ergonomique et capable d'être déployée sur tous les smartphones de ses collègues. Et à l'inverse, nous, en tant que DSI, ça nous permet de contrôler quand même ces initiatives digitales, de contrôler ou de bloquer ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire un peu l'informatique en cachette, qui est un risque pour l'entreprise, un risque cyber, un risque de propriété intellectuelle, de niveau de service, un risque contractuel. Et donc on peut travailler ensemble et leur laisser l'initiative.
Merci infiniment pour cet éclairage, Stéphane Rousseau. Vous êtes directeur DSI chez FH. Merci. Alors, on profite qu'on a un grand responsable d'AP2R pour savoir si ce que vient de dire Stéphane Rousseau vous parle.
Oui, bien sûr que ça nous parle. Je voulais juste ajouter quand même, Fabienne, que nous aussi, chez AP2R, nous avons des chantiers, sauf que nous ne les réalisons pas, nous les supervisons. Et pour les superviser, nous avons besoin d'outils. Et donc, nous avons mis en place des outils comme Numa Patrimoine pour suivre le patrimoine, digitaliser le suivi du patrimoine autoroutier, par exemple. Et tout à fait, oui, par rapport à ce que disait Stéphane Rousseau, donc je reprends l'image du vase de la digitalisation de tout à l'heure. Donc les premiers gros cailloux, ça a été les métiers régaliens de l'autoroute. On a fait des applications métiers, les principales applications métiers. Et ensuite, on a mis des petits cailloux. Et les petits cailloux, c'est tous ces irritants du quotidien avec des petites choses, avec un peu d'automatisation. Tu en parlais, Sébastien, tout à l'heure. Avec un peu d'automatisation, on est capable de simplifier vraiment le quotidien de chacun avec une petite application faite en no-code, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être un codeur émérite. Eh bien, ça simplifie le quotidien. Donc voilà. On met maintenant des petits cailloux au milieu de tous ces gros cailloux. Et qui sait, peut-être demain, on aura du sable à rajouter.
C'est génial, je me faisais une émission sur la digitalisation, je ne vais rien comprendre, du codage C, etc. Et en fait, petits cailloux, des petits poussets, quelle belle histoire. Je me tourne pour vous me raconter un autre conte, Sébastien Chemin, parce que cette digitalisation, apparemment, elle concerne les collaborateurs, on l'a bien compris, mais également les clients. Comment ça se passe, cette mutation de l'offre liée au digital ?
Oui, vous avez raison. En fait, évidemment, il faut qu'on accélère et qu'on soit dans le modèle digital sur les deux pans. Quand je dis les deux pans, c'est le pan de l'interne, nos collaborateurs, la manière d'optimiser notre performance opérationnelle, d'améliorer notre performance opérationnelle. Mais c'est aussi de rendre toujours plus à nos clients par l'intermédiaire de la mutation de nos offres. Alors, la mutation de nos offres, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que petit à petit, le digital s'inscrit dans les offres du groupe FH.
Quel client, voilà. Sont vos clients ? Est-ce alors, vos clients final ?
Oui, alors en fait, quand on parle de notre client, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on construit un hôpital, finalement, l'hôpital, on le construit pour qui ? On le construit pour le patient qui va finalement, à un moment donné, déambuler dans cet hôpital, qui va avoir besoin de se rendre chez un médecin et qui va avoir besoin de se faire soigner. Et en fait, sur tous ces sujets de localisation du patient, pour l'aider à son parcours au sein de l'hôpital, pour gérer sa tablette d'appel malade, sont autant de nouveaux systèmes que nous sommes en mesure aujourd'hui de déployer dans un groupe comme FH. Alors, je vous parle du patient de l'hôpital, mais je pourrais vous parler de l'étudiant à l'université, je pourrais vous parler de l'employé dans le bureau, mais je pourrais vous parler aussi de l'usager d'une autoroute.
Absolument, oui. Alors, nous aussi, nous avons développé des offres digitales pour nos clients finaux, c'est-à-dire ceux qui prennent l'autoroute, mais on s'est rendu compte aussi que certaines choses qu'on développait pour nous-mêmes pouvaient intéresser d'autres entreprises. Et c'est de cette manière-là qu'on a créé, nous avons créé Infrasim.ai et Data New Road, deux filiales qui exploitent le potentiel phénoménal de la data d'APRR. C'est qu'APRR a emmagasiné énormément de données patrimoniales depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire de suivi des ouvrages et des chaussées. Nous avions carburant, la donnée, il nous fallait un moteur, donc on a fait un partenariat avec une entreprise qui nous a amené le moteur, et avec ce moteur-là, nous sommes capables aujourd'hui de faire de la maintenance prédictive de nos chaussées et de nos ouvrages d'art, c'est-à-dire de savoir mettre le bon euro au bon endroit et au bon moment. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle, c'est-à-dire que la donnée, et plus la donnée est profonde, c'est-à-dire plus nous avons des données sur plusieurs années, plus elle est utile et plus elle est efficace pour faire fonctionner les algorithmes.
J'ai cru comprendre que l'IA allait également révolutionner, si ce n'est pas déjà fait, le système de comptage, alors pas seulement des voitures, des véhicules, mais des automobilistes et des occupants. Vous pouvez nous expliquer, c'est vraiment très intéressant.
Autre application, effectivement, merci. Sur les voies de covoiturage qui commencent à fleurir, hein, vous en avez désormais à Lyon, au nord et au sud, à Grenoble, et puis il va y en avoir d'autres. Donc ces voies de covoiturage sont réservées aux véhicules ayant plus de deux personnes, c'est-à-dire deux personnes et plus. La difficulté, c'est que c'est comme ça, on a tous envie de prendre une voie qui est libre, où il y a moins de monde. Donc comment fait-on pour faire signifier aux gens, de manière pédagogique, à nos utilisateurs, qu'ils ne doivent pas aller sur cette voie mais rester sur les deux autres voies? Eh bien, on a mis en place un système...
S'ils sont tout seuls, quoi.
Voilà, s'ils sont tout seuls, bien sûr. On a mis en place un système de détection du nombre d'occupants, et ça, c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. C'est-à-dire qu'elle a la capacité, parce qu'elle a ingurgité énormément de photos, énormément de vidéos, elle a la capacité de reconnaître s'il y a un ou plusieurs occupants dans le véhicule, et elle fait très bien la différence, Fabienne, entre une peluche et un véritable passager, ou alors...
Voilà, si ma petite fille a une poupée dans les mains, elle ne va pas être prise pour un occupant de la voiture.
Non, par contre, vous serez deux, vous et votre fille.
Non, elle conduit maintenant.
D'accord.
Alors, on va écouter un autre témoignage. Il s'agit de Yannick Bunel. Il mène un projet assez ambitieux, projet ICE, AIS, mené pour le SDEF. On l'écoute. Yannick Bunel, bonjour. Vous êtes le directeur de la région Ouest pour Eiffage Energy Systems. Alors, cette digitalisation, comment se décline-t-elle dans votre périmètre ?
Sur notre périmètre, en fait, elle se décline par l'intermédiaire du SDEF, en fait, qui est le syndicat d'électrification du Finistère, qui avait un besoin de services complémentaires auprès des collectivités et des citoyens. Au travers de connexions informatiques et de services innovants. Donc notamment sur la gestion d'éclairage public, sur de la détection de fuites d'eau, sur de la gestion énergétique bâtimentaire et également sur des plateformes citoyennes interactives.
Donc ça concerne vraiment le quotidien, hein, l'éclairage, l'eau, on ne peut pas s'en passer.
Exactement. Par les temps qui courent, en fait, c'est plus aussi une recherche d'économie globale et collective, de manière à optimiser toutes ces énergies diverses et variées.
Pourquoi faites-vous appel aux technologies Smart Grid ?
Alors, on fait appel aux technologies Smart, c'est-à-dire que l'objet était aussi d'avoir une infrastructure de connexion qui soit indépendante des grands réseaux opérateurs et opérés, de manière à diminuer tous les coûts d'exploitation et de manière à aussi pérenniser ces installations en toute autonomie. Donc, il a été développé tout un tas de serveurs informatiques qui sont interconnectés ensuite au niveau des informations par un réseau d'antennes bas débit qui permettent justement cette autonomie en termes de réseau d'infrastructures.
Alors, d'un côté, ça peut paraître très technique, mais en fait, d'un point de vue commercial, il semblerait que ça a un impact sur la satisfaction des clients. L'offre d'Eiffage change véritablement avec cette digitalisation accrue.
Ben en fait, on remonte dans une chaîne de valeur de service, puisque finalement, nos métiers historiques d'électrification ou d'électricité, ou d'éclairage public, ou d'énergie auprès des bâtiments et des industries, nous permettent d'amener des services complémentaires par ces infrastructures smart, et qui permettent en plus d'aller dans des optimisations de coûts et des optimisations de gestion et de services, en fait.
Qu'on comprenne, ça vous permet de superviser, de capter plus d'informations, d'un meilleur suivi, concrètement?
Concrètement, ça permet effectivement de remonter un certain nombre d'informations et de les agréger et de pouvoir les réutiliser pour d'autres usages. C'est-à-dire que une donnée d'éclairage public peut très bien servir pour d'autres usages par rapport à des besoins de gestion de circulation, des gestions de flux de stationnement, etc. Donc finalement, on peut amener via une donnée un service complémentaire pour un autre usage. Donc c'est là où finalement l'information, elle n'est pas unique et elle sert à plusieurs usagers.
Est-ce que les collectivités avec qui vous travaillez, elles sont friandes de ce type de données, de cette montée vers le digital?
Je dirais que le contexte actuel contribue à l'accélération du besoin digital, hein, de par le télétravail, de par effectivement tout cet isolement un peu forcé et contraint, où du coup les collectivités ont accéléré le processus de digitalisation et d'informatisation, en tout cas de leurs services. Et effectivement, nous, on contribue à cette amélioration et cet apport de technologie, en fait.
Beaucoup de start-up sont présentes dans le domaine du digital. Vous travaillez avec elles. C'est un vrai soutien pour les grands groupes que vous êtes et qui sont pilotés parfois de manière un petit peu moins agile que ces petites structures.
Je dirais que nous, on a fait preuve d'agilité justement sur ce projet-là, puisqu'on a embarqué avec nous certaines startups qui avaient des expertises bien déterminées et bien ciblées. Et donc, dans cette montée en compétences collective, donc on a réussi à travailler de manière très agile pour pouvoir répondre en temps réel aux besoins du Finistère et de l'ensemble du département, puisque finalement, on a démarré notre marché en janvier 2020. Et comme vous le savez, en mars 2020, on a été tous plus ou moins confinés. Et on a quand même néanmoins livré ce projet-là fin décembre 2020.
Vous pouvez nous parler d'un exemple de start-up qui participe à votre projet, rapidement?
Plusieurs start-up. On a une start-up qui est plus une start-up, puisque depuis, elle a quand même grossi, qui s'appelle Dolmen, qui travaille sur tout ce qui est interaction sur des plateformes collaboratives, vers justement du citoyen, de manière à rendre ce service-là ouvert et open source auprès de certains citoyens. Et on a, donc ça, c'en est une, par exemple, qui est basée sur Rennes. Et on a une autre start-up qui est plus sur la partie, on va dire, expertise data et de réseaux d'antennes, qui s'appelle Sending Vision, qui est basée également à Rennes.
Merci beaucoup Yannick Bunel pour cet éclairage sur votre projet dans le cadre du SDEF et qui montre que la digitalisation s'installe effectivement et est mise en œuvre au sein du groupe FH. Merci à vous. Alors en préambule, on parlait de transformation, d'évolution, mais transformation globale de l'entreprise. Mais il y a la transformation de la data. François Castan, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, alors ce n'est pas la transformation de la data, c'est la data qui nous transforme.
C'est vrai.
C'est-à-dire que la data transformation, c'est finalement la nouvelle étape de la transformation digitale des entreprises. Très important de le comprendre. Les data, elles quittent le domaine technique désormais pour véritablement devenir un enjeu de performance économique pour toutes les entreprises. Et c'est un enjeu d'innovation aussi, de stratégie, et elles permettent, ces data, d'exploiter toutes les possibilités de nouveaux services, de nouveaux gains de productivité. Je crois qu'il y a autre chose aussi qu'il faut bien comprendre derrière, c'est derrière ce mot big data, qui est un mot valise, il y a un changement, une promesse, un changement de paradigme qui est extrêmement fort et qui est le suivant, c'est de tout transformer en données pour tout transformer par les données. C'est-à-dire qu'en digitalisant le monde réel, en transformant le monde réel en données, on arrive en réalité à le transformer en retour en exploitant ces données-là. Par exemple, le trafic, en utilisant les données numériques du trafic, on arrive à faire de la prédiction trafic. En utilisant les données numériques de la maintenance, on arrive à faire de la maintenance prédictive. On voit bien que c'est assez enthousiasmant, et en même temps il faut être très prudent, parce que quand on sort du domaine purement professionnel, ça peut donner lieu à des dérives terribles. Donc c'est très intéressant pour nos business, pour nos activités, mais il faut que ça reste cantonné, selon moi, à nos activités. Dès que ça sort, cette grande promesse de tout transformer en données, pour tout transformer par la donnée, quand ça sort du domaine professionnel pour nos vies privées, la santé, là, c'est autre chose.
François Castan a évoqué la maintenance prédictive. Vous pouvez élaborer un petit peu là-dessus ? Comment ça se passe dans vos services ?
Oui, tout à fait. Si je prends l'exemple, puisque François prenait un exemple dans le domaine autoroutier, je peux en prendre un dans le domaine de l'industrie. Chez nous, en fait, ce qui est intéressant dans l'industrie, c'est qu'un des grands enjeux des industriels, c'est de pouvoir toujours mieux produire des produits de qualité selon la cadence prévue. Pour faire ça, il faut que les équipements de l'usine soient toujours en parfait état de marche. Il y a plusieurs manières de s'y prendre pour que les équipements de l'usine soient en parfait état de marche. Soit on répare un équipement lorsqu'il tombe en panne, c'est ce qu'on appelle la maintenance curative, donc on agit une fois que le problème survient. Et puis ensuite, on passe à plusieurs autres étapes. Alors l'étape intermédiaire, c'est la maintenance préventive, où je dis, tous les 3 mois ou toutes les semaines, selon l'équipement, je vais passer faire un contrôle et puis je vais regarder s'il y a un problème et auquel cas, ou s'il y a un faisceau d'indices et auquel cas je réparerai ou je ferai une opération de maintenance préventive. Mais ce qui est intéressant dans le prolongement de ce que disait François, c'est quand on commence à avoir du volume de données, quand on commence à savoir comment un produit est fabriqué au travers de cette transformation du monde réel en data, on est en capacité finalement à observer ces équipements de l'usine, à voir à partir de quel moment ils sont tombés en panne et de construire l'histoire qui est arrivée avant que cette panne survienne. Et lorsque on analyse comme ça un grand volume de pannes similaires et qu'on se rend compte qu'il y a des faisceaux d'indices qui nous disent « tiens, dès que j'ai une vibration de tel type sur mon équipement, alors ma pièce sort en défaut de qualité, je suis en mesure de faire des corrélations. » Voilà, donc je ne vais pas vous faire un cours, serais bien incapable sur la data science et sur tout ce qui est autour, mais globalement, le sujet, c'est celui-là. Et donc, à partir du moment où on est en capacité, au travers d'une offre d'intelligence artificielle et de data science, de donner à nos clients une capacité à mieux produire, c'est aussi là qu'une entreprise comme Eiffage prend tout son sens en termes de conseils auprès de nos clients.
Bon, on ne peut pas nier que la digitalisation implique des risques. On a parlé beaucoup des bénéfices. Vous pouvez évoquer quand même cet aspect, s'il vous plaît ?
Oui, c'est-à-dire que la data, c'est une nouvelle source de valeur. On l'a bien compris, vous l'avez bien compris. Et c'est une ressource fragile, c'est-à-dire qu'elle est très convoitée. Et aujourd'hui, le sujet de la cybersécurité est extrêmement prégnant pour les entreprises. Les attaques sont multiples, journalières. Et nous sommes passés, du coup, d'une stratégie de l'œuf à une stratégie de l'oignon. Je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire, avant, nous avions une stratégie de l'œuf avec une coquille, un rempart, le seul rempart contre les attaques. Mais une fois que l'attaque perce le rempart, une fois à l'intérieur, il se régale, le hacker se régale. Et la stratégie de l'oignon, c'est de dire multicouche. Il va peut-être passer une couche, mais il y en a une deuxième. Et puis ensuite, il y en a une troisième, il y en a une quatrième. Évidemment, on sait que rien n'est invulnérable, mais par contre, l'idée, c'est de retarder le plus tard possible l'intrusion malveillante.
Quant à vous, la cybersécurité, comment vous la traitez, Sébastien Chemin ?
Au même titre que François, on sécurise évidemment au sens large pour Eiffage le système d'information du groupe. C'est l'évidence et c'est une préoccupation du quotidien pour nos équipes qui dirigent ces entités. Mais nous venons aussi aux côtés de nos clients industriels, là encore, parce que aujourd'hui, plus de 2/3 des entreprises ont déjà subi une cyberattaque. Donc c'est énorme et c'est un chiffre qui va ne faire que grandir. Mais ce qui est préoccupant, c'est que sur ces 2/3 d'attaques, 25% d'entre elles concernent des systèmes industriels, des systèmes de production. C'est-à-dire qu'on peut mettre à l'arrêt une usine avec une cyberattaque. Donc ça, c'est évidemment extrêmement dangereux et il faut qu'on agisse là-dessus. Donc nous avons des équipes tout à fait compétentes pour aider nos clients sur ce sujet.
Et le rempart ultime, je voulais ajouter, le rempart ultime contre les attaques, c'est notre comportement. Comme pour la prévention, où on se rend compte avec notre degré de maturité que finalement, on ne va pas mettre des coussins partout, des amortisseurs partout pour éviter de se faire mal. C'est notre comportement qui est l'étape ultime de la prévention, eh bien dans la cybersécurité, l'étape ultime, c'est notre comportement. Donc ça passe par de la formation, ça passe par de la prévention.
De la prévention, des oignons. Et pour terminer, je fais une boutade. Alors, votre mot de conclusion, François Castan, on a bien compris que c'est une approche collective que vous avez sur ces sujets.
Hein. Oui, j'aime bien cette phrase, la connaissance se multiplie quand on la partage. Je trouve qu'elle est, au-delà d'être belle, je trouve qu'elle est utile. Et j'aime à penser qu'aujourd'hui, on a plus accès à l'information. Donc on sort plus de l'ignorance, quelque part, c'est pas péjoratif, mais on peut pas tout savoir non plus. Mais je trouve que l'accès à l'information, finalement, nous permet de mieux partager le pourquoi de l'entreprise, d'une manière générale. Et quand on connaît le pourquoi d'une entreprise, eh bien, on a du sens dans notre travail. Donc je trouve que ça, c'est aussi une des vertus du digital, c'est accéder au pourquoi des choses.
Un mot de conclusion, Sébastien Chemin ?
Oui, alors moi, ce qui me rassure beaucoup, c'est que vous m'avez tous les deux volé mon mot de conclusion, puisqu'on est d'accord, donc ça, c'est l'avantage de nous retrouver. Ce que je vous dirais, c'est que, en fait, la digitalisation, elle n'a de sens que si elle embarque tout le monde. Vous l'avez dit, Fabienne, tu l'as dit à de nombreuses reprises, François, quand je dis qu'elle embarque tout le monde, elle doit embarquer nos équipes, elle doit embarquer nos clients. On est tous dans cette aventure collective, et puis ça tombe bien parce que le collectif, c'est un des gènes majeurs de l'ADN des phages.
Merci beaucoup, messieurs. On comprend mieux en vous écoutant dans quelle mesure le digital remet en avant la notion d'intelligence collective, ramène de la proximité. Il permet d'affranchir les collaborateurs des tâches à faible valeur ajoutée pour qu'ils se concentrent sur celles sur lesquelles l'homme excelle. L'intelligence collective, beaucoup d'intelligence à cette table avec ces managers des phages. On comprend mieux pourquoi ce groupe se développe si vite. François Castan, directeur de l'ingénierie et des systèmes d'information d'AP2R. Également avec nous, Sébastien Chemin, directeur de la transformation digitale Eiffage Energy System. Et je rappelle ceux qui ont été interviewés et qui témoignent, notamment Yannick Bunel, Xavier Barthélémy, Stéphane Rousseau et la fameuse Nadège Roser, à qui on fait un petit coucou à Kroll. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir écoutés.
Des villes et des hommes, une émission proposée en partenariat avec Eiffage.